Bonjour Hervé,
Bonjour Cédric.
ravi de t'accueillir sur le podcast.
Merci, je suis ravi également.
Je suis fan de ton message et j'avais envie de te rencontrer. C'est un ami commun qui nous a mis en contact, qui est passé dans un épisode qui s'appelle Et si Dieu était notre manager, qui est un épisode vraiment intéressant que je vous conseille d'écouter si c'est pas déjà fait.
Je
Là, on va
confirme.
changer de registre. On va être plus avec les militaires, ou en tout cas en partie. Et moi, j'aime bien commencer par. En fait, j'aimerais. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui t'anime. Ce serait quoi ton grand message, ton point de vue peut-être particulier sur le management, ou en tout cas dans la vie. Et puis, on pourrait démarrer de ça.
Allez, c'est parti. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a quelques liens entre ce que propose l'auteur dans Et si le Christ était notre PDG et le leadership à l'armée, qui est directement inspiré de la doctrine sociale de l'Église. Donc ça, on
Ah
pourrait même en...
d'accord.
Ouais, pour la petite histoire, c'est assez lié. Moi, ce qui m'anime, le message que je veux faire passer, il se résume en une phrase. Elle est un peu provocatrice, parce que ça implique beaucoup de choses, mais c'est ce que j'ai appris tout petit, au début de ma carrière de manager, c'est que c'est toujours la faute du chef.
Ça, c'est ce que pensent les collaborateurs ou c'est ce que tu penses?
Alors, c'est pour ça que c'est provocateur, parce que évidemment, dans la réalité, le chef n'est pas fautif de tout ce qui se passe dans son équipe, mais c'est une punchline qu'on m'a inculquée lorsque j'étais en école, donc aux écoles de Saint-Cyr, j'étais au 4e bataillon, et puis ensuite en école d'application des lieutenants d'infanterie. C'est toujours la faute du chef, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes chef, quand vous avez la responsabilité d'un groupe, vous devez toujours partir du principe que vous êtes responsable de tout ce qui s'y passe, en bien, ça c'est une chose, mais surtout en mal. Et c'est un raisonnement que j'ai retrouvé par la suite. Lors de ma reconversion dans le management des risques. Dans le management des risques, on ne cherche jamais l'erreur humaine lorsqu'on va analyser les causes. On pourrait y revenir tout à l'heure. On va systématiquement chercher les causes d'une défaillance, d'un accident, d'un presque accident, dans le management. Parce que c'est la seule manière de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et donc cette punchline, c'est toujours la faute du chef. J'aimerais la diffuser un maximum parce que c'est ce qui manque aux mauvais chefs et c'est ce qu'ont les bons chefs, les bons managers. Moi, j'ai managé pour une petite quinzaine d'années, donc j'ai un petit peu de recul maintenant dans divers environnements. Et je classe les managers en deux catégories. Ceux qui font preuve de responsabilité, responsabilité absolue, pour reprendre les termes de Joko Willink, qui est un ancien militaire américain et qui rencontre beaucoup de succès par ses livres et ses formations en management, ceux qui font preuve de responsabilité absolue et ceux qui n'en font pas preuve. Et faire preuve de responsabilité absolue, quelque part, bah, c'est être adulte. Et ne pas faire preuve de responsabilité, c'est un comportement un peu enfantin. Moi, j'ai deux petits garçons, un de 10 ans, un de 8 ans. Ils sont encore loin de faire preuve de responsabilité absolue. Et c'est ça, finalement. Être manager, c'est faire preuve de responsabilité, embrasser tout ce qui se passe dans son équipe et toujours se poser la question, attends, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver à cette situation? Ça peut être une situation avec un collaborateur qui est tendu, et j'ai vécu ce genre de situation. Moi-même, j'ai des échecs. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et donc, j'ai beaucoup à transmettre.
C'est comme ça qu'on apprend en même
Et
temps.
c'est comme ça qu'on apprend. Il faut toujours chercher. Alors, je prêche un peu pour ma paroisse, mais faut toujours chercher auprès de ceux qui ont eu du mal à faire quelque chose, comment ils ont réussi à le faire, plutôt que ceux qui l'ont fait naturellement.
Exactement.
Parce que eux, ils savent pas comment ils ont fait. C'est instinctif chez eux. Il faut aller vers ceux qui ont eu du mal à faire quelque chose et leur dire, mais attends, comment t'as fait pour surmonter ça? Ok. Bon, parenthèse fermée.
D'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Les meilleurs formateurs, c'est ceux qui ont galéré, qui ont dû apprendre.
Eh oui, bien sûr.
Et c'est pareil. Moi, on m'avait dit ça au sport. On m'avait dit, non, mais si tu demandes des conseils au mec qui, de toute façon, est un naturel, c'est-à-dire quelqu'un qui court le marathon sans s'être préparé, etc., il va pas savoir t'expliquer comment y arriver, quoi. En général, c'est plutôt
exactement,
les gens qui ont eu un peu de mal, qui ont réussi malgré les
exactement.
Les contraintes.
Mmh. C'est ouais, marrant que tu parles de ça parce que je fais souvent le parallèle. J'essaie toujours de faire des parallèles entre le management et le reste de mes activités parce que je suis passionné par le management. Mais je pratique par exemple la musculation depuis quelques années. Et, et finalement, ça rejoint un peu ce qu'on vient de dire là, sur cette parenthèse. Tu vas pas demander à quelqu'un comment il fait pour avoir une cage thoracique, enfin des pecs énormes. Chez lui c'est un point fort, parce qu'en fait il sait pas comment il fait, il s'entraîne n'importe comment, il mange n'importe comment et puis il a des pecs énormes. Par contre, tu vas lui demander comment il fait pour développer ses épaules, parce que c'est son point faible à lui, les épaules. Et donc comment t'as fait? Voilà, ben, c'est exactement ça.
Ouais, tout à fait.
Et donc pour en revenir sur ce principe de responsabilité absolue, je pense que c'est la condition sine qua non pour être un bon manager. Et finalement répondre à ce que enfin, créer les conditions de ce qu'on attend d'un manager, c'est-à-dire créer l'autonomie des collaborateurs et la fidélité. Parce que finalement, c'est le graal du manager, ça. Faire en sorte que ses collaborateurs soient autonomes, qu'ils travaillent sans qu'on ait rien à leur dire, et d'autre part, qui restent des années, des années et des années chez nous, et qu'on n'ait pas de turnover. C'est exactement ça qu'on cherche. Et ça, on pourra l'avoir à condition que la première base soit posée, à savoir la responsabilité absolue incarnée par le chef, le manager.
Ok. Donc la notion d'exemplarité, pour toi, elle est là. C'est-à-dire que si toi, tu prends en charge, si tu prends tes responsabilités, ça va les encourager eux aussi à prendre leurs responsabilités, malgré ce qu'on pourrait... Et je suis assez d'accord, hein, parce que c'est presque paradoxal. On pourrait dire, non, si je prends toute la responsabilité, ça veut dire qu'eux, ils sont plus responsables de rien. Mais non, ouais. Parce qu'en management, justement, ta responsabilité, c'est de faire qu'eux prennent les leurs.
C'est
donc,
ça.
Ouais, je suis d'accord.
On finit toujours par ressembler à son chef. Mais j'ai eu quoi? J'ai eu une douzaine de chefs dans ma vie. Alors, c'est pas que j'ai été instable, c'est juste qu'à l'armée, on change souvent. j'ai eu pas mal de N+1. Et mon comportement a toujours été calqué sur leur comportement à eux. J'ai pas été le même lieutenant avec le capitaine X et avec le capitaine Y.
D'accord.
J'ai pas été le même salarié avec le chef d'entreprise X et avec le chef d'entreprise Y. Parce qu'on est influençable. Il faut reconnaître qu'on est influençable et qu'on calque son comportement sur son chef. On veut toujours finir, malgré nous, par lui ressembler, parce que finalement, c'est lui qui donne le « là ». Exemple. Et c'est pour ça que être exemplaire est si important et qu'on en parle, à toutes les sauces. C'est pas un vain mot, c'est pas un aphorisme dénué de sens. C'est la base. C'est vraiment la base.
Ok, super. J'aime bien le message. Je trouve ça bien. Et d'où il vient ce message en fait? Est-ce que dans ta carrière, dans ta vie, peut-être, je sais pas, à un certain niveau. T'as eu un déclic, ça dépend, il y a des gens qui ont un déclic, qui disent waouh, par exemple rencontrer quelqu'un qui ou te trouver dans une situation qui te dit moi je veux jamais que ça arrive à quelqu'un d'autre, enfin tu vois ça peut être plein de choses comme ça. Est-ce que toi il y a eu un événement en particulier qui a généré chez toi cette envie de transmettre, cette envie de justement de te passionner sur le management?
Alors un événement particulier non, mais toute une expérience accumulée. Bon, j'ai toujours été intéressé par le management, j'ai suivi des études managériales à la fin de mon cursus universitaire. J'avais commencé par la sociologie, donc déjà, théorie des organisations, etc., Weber, ça m'a toujours intéressé de chercher les... En sociologie, il y a deux, trois choses que j'ai apprises, c'est que tout est déterminé socialement. Bon, c'est une vision un peu partisane de la vie, à laquelle j'adhère pas tout à fait. Mais finalement, y a un lien avec le management, c'est-à-dire que le comportement des individus et des collaborateurs est directement lié à l'environnement dans lequel ils travaillent. Et l'environnement, qui est-ce qu'il crée? C'est le manager, puisque le manager, il est là pour créer les conditions qui vont faire que les collaborateurs vont faire leur travail. Donc, il n'y a pas d'événement en particulier, mais une suite de claques prises. au cours de mon expérience managériale, d'abord en tant que lieutenant, j'en ai pris quelques-unes puisque j'ai appris un peu à la dure, finalement. quand on commande 30 soldats, c'est pas évident tous les jours, quoi. Donc, parce qu'il y a, beaucoup de franchises, beaucoup de virilité, c'est un peu rugueux, etc., etc. Faut savoir s'imposer. Et puis, on apprend très vite que à l'armée, en fait, il n'y a pas de mauvaise équipe, quoi. Il n'y a que des mauvais chefs.
Ah,
Ouais.
ça j'aime bien aussi parce que ça me rappelle, j'arrive pas à retrouver les références, à chaque fois que j'en parle, je lance un appel en disant si vous avez les références de cette expérience, envoyez-les-moi. J'avais discuté avec une Canadienne qui était une chercheuse, qui m'avait expliqué qu'il y avait eu une expérience faite au Canada où ils avaient, dans une entreprise, si tu veux, tu avais une équipe A qui était très performante, puis une équipe B qui était moins performante. Et ils avaient fait l'expérience volontaire de switcher les deux managers de chacune des équipes. Et au bout de 6 mois, je sais plus, en fait, l'équipe A était devenue moins performante que l'équipe B. Et donc ça, et vice versa, quand ils ont remis le chef,
Ouais.
c'est reparti dans l'autre sens. Donc oui, ça tend à prouver. Alors après, il peut y avoir des contextes différents, des choses comme ça, mais effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Moi aussi, c'est mon observation. Et j'ai
Oui,
bien
voilà,
aimé
ouais.
ce que tu as dit sur l'autonomie. Souvent, moi, je dis, ben, une équipe, un bon manager se juge en son absence.
Oui,
C'est-à-dire
absolument.
que, est-ce que l'équipe fonctionne de la même manière quand tu es là ou quand tu n'es pas là? Si elle fonctionne pas de la même manière quand tu n'es pas là, c'est qu'il y a un petit problème d'autonomie quand même. Ok.
Exactement, ouais.
Alors, avant qu'on revienne peut-être à tes expériences et puis au tournant de ton parcours, peut-être que justement, tu peux nous le donner, ton parcours, nous expliquer un petit peu par quoi t'es passé, enfin un petit peu ton chemin jusqu'à aujourd'hui.
Ah, il commence à l'université, donc comme je te l'ai dit, avec un fort intérêt pour les sciences humaines, comme on dit. Donc j'ai suivi un cursus sciences humaines, puis management des organisations. Aix-en-Provence. Je me suis engagé ensuite parce que j'avais envie de servir mon pays. Donc pour tout un tas de raisons, je me suis engagé par idéal surtout et par soif d'aventure. J'ai choisi l'infanterie, donc l'arme de mêlée. L'infanterie, c'est les soldats à pied qui occupent le terrain. Je précise parce que c'est pas un terme que tout le monde maîtrise. Donc l'infanterie, 126e RI. 126e régiment d'infanterie à Brive, où j'ai été chef de section. Donc un chef de section, c'est un lieutenant qui commande une section d'environ 30 personnes, donc 30 soldats. Et son métier, c'est faire en sorte que la section soit prête à être engagée sur une mission lorsque le moment est venu. Donc c'est beaucoup de préparation et d'entretien des savoir-faire opérationnels, puis de la conduite de missions opérationnelles en France ou à l'étranger. Pour ma part, ça a été en Afrique à deux reprises. Et voilà. Donc,
Ok.
un métier assez complet. Et puis ensuite, après lieutenant, on passe capitaine. C'est automatique. Il n'y a aucun mérite à ça jusque-là. Et j'ai été adjoint, donc commandant d'une compagnie en second. J'étais l'adjoint tactique de la compagnie, c'est-à-dire que en l'absence du capitaine, du chef, c'était moi qui commandais, j'étais son bras droit sur tout ce qui était tactique. Donc là, c'est environ 120, 150 personnes, ça dépend des contextes. Et à la fin de mon contrat, puisque j'étais officier sous contrat, je me suis reconverti dans le management des risques. Donc j'ai suivi une année de spécialisation, un master spécialisé au CNAM. Le CNAM, c'est une antenne des arts et métiers. À Aix-en-Provence, je suis revenu dans le sud. J'ai travaillé un an pour une entreprise dans la pétrochimie, donc autour de l'étang de Berre, il y a un gros bassin industriel. Je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Ponticelli, donc qui fait de la tuyauterie industrielle en tant que responsable prévention des risques. C'est pour ça que je t'en ai parlé tout à l'heure sur l'analyse des causes, etc. Il y a un lien très fort sur le principe de responsabilité absolue. Il se retrouve notamment dans les entreprises qui travaillent dans des environnements à haut risque, comme ArcelorMittal, où on avait des gars qui travaillaient là-bas, Total, etc., etc. Vraiment des environnements risqués. Et puis, bon, ça c'était ma reconversion, j'étais un stagiaire. J'ai ensuite été recruté dans une entreprise qui fondait une start-up et qui développait un produit électronique lié à la sécurité, sécurité liée aux activités de chasse, chasse en battue, pardon. Donc,
D'accord.
j'étais pas chasseur du tout, mais je m'y suis mis. On a développé un produit et il lui fallait absolument un ancien militaire parce que ça nécessitait une certaine rigueur dans la tenue des essais sur le terrain, puisqu'il y avait quand même une notion de risque assez élevée avec l'utilisation d'armement. Donc il m'a recruté pour ça, et puis en fait, il s'est avéré que je me suis retrouvé à gérer un projet où mes collaborateurs étaient des chefs d'entreprise, donc des fournisseurs. J'avais cinq ou six collaborateurs comme ça, cinq ou six partenaires. Et là, j'ai appliqué bêtement ce que j'avais appris à l'armée sur la conduite de projets militaires, etc., etc. Je pourrais y revenir tout à l'heure. Donc une expérience passionnante. Et puis en 2000, je sais plus trop combien, 2018, je crois, je suis parti sur une mission d'encadrement de 3 ans et demi au Niger, à Niamey. Donc le Niger, pour ceux qui nous écoutent, c'est un pays de la bande sahélo-saharienne qui est connu pour son insécurité chronique, puisque c'est frontalier du Mali. Et donc j'ai géré un contrat de sécurisation, de sécurité, au profit d'emprises européennes. En gros, on assurait la sécurité d'expatriés au Niger, et donc je gérais 350 agents au quotidien. Donc ça paraît beaucoup. J'aime bien dire ça parce qu'ensuite j'enchaîne en disant qu'en fait moi je commandais que 5 personnes. Grâce à la magie de la système hiérarchique pyramidal, je commandais 5 personnes, 5 superviseurs qui eux-mêmes commandaient 5-6 personnes, jusqu'à arriver à un chiffre assez impressionnant de 350 personnes. Et puis en 2022, je me suis lancé dans le conseil, pas seul dans un premier temps, au sein d'un collectif. Enfin, je travaillais pour une entreprise en freelance, et puis en solo depuis 2023, avril 2023. Et aujourd'hui, bah, je transmets ce que j'ai appris, mon expérience, tant militaire que civile, mais beaucoup militaire, c'est mon positionnement, aux dirigeants et managers, pour les aider justement à créer les conditions de l'autonomie de leurs collaborateurs. C'est mon objectif, faire en sorte que les collaborateurs soient autonomes in fine.
Ce que tu leur proposes, c'est quoi? C'est des coachings ou c'est des séminaires ou co comment tu travailles en fait avec les chefs d'entreprise et les managers?
Alors bah effectivement, je travaille de deux manières différentes. La première, c'est de l'accompagnement individualisé. Alors j'emploie pas le mot de coaching parce que je suis pas coach. Donc je fais attention à ne pas employer ce mot pour voilà, par respect pour les coachs. Mais évidemment, mes méthodes s'en approchent un petit peu. Alors je me considère plus comme un mentor pour le coup. J'hésite pas à donner mon avis, par exemple. Je sais que les coachs font beaucoup d'émergence et font trouver beaucoup les solutions par les coachés. Et moi, j'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, en fait. Donc c'est une approche qui est un peu plus subjective, plus individuelle, plus personnelle. Donc de l'accompagnement individuel, j'aime bien travailler sur 3, 4, 5, 6 mois pour avoir des résultats. Mais également, oui, comme tu l'as dit, j'organise des séminaires thématiques qui tourne autour d'une idée force, c'est comment rendre vos collaborateurs autonomes. Et ça passe beaucoup par de la méthode. Lors de ces séminaires, je parle pratiquement pas de soft skills ou de savoir-être, hormis ce principe de responsabilité absolue que je martèle du début à la fin de la journée. Mais je parle beaucoup de méthode. Quand je parle de méthode, moi, je m'intéresse beaucoup à... Alors, tu sais, pour conduire une manœuvre, en fait, il y a deux choses. Il y a la phase de décision et la phase d'exécution. Une bonne manœuvre, je crois que c'est le général Desportes qui avait dit ça. Je suis assez influencé par les écrits du général Desportes.
Ah, bah il est passé sur le podcast, tu sais.
Ah, ben, il faudrait que je l'écoute alors.
Quand il a sorti son livre,
Devenez leader.
c'est
Non?
ça, ouais.
Ouais,
Ouais,
le
je
dernier,
crois.
ouais.
Ouais, c'est ça.
Je le
Et
recommande à tout le
d'ailleurs,
monde.
quand tu m'as dit cinq personnes, j'ai fait le lien avec. Je lui avais dit, bon, en management, moi, j'estime qu'on peut pas très efficacement manager plus de 8 personnes. Et pour des questions de timing et d'organisation, moi, je suis comme toi, je suis assez sur l'organisation avant tout. Et lui, je lui ai dit dans l'armée, c'est quoi? Il m'a dit, l'armée, c'est, il dit, toutes les 5 personnes, c'est bien d'avoir un relais. Il m'avait dit quelque chose comme ça. J'avais trouvé ça intéressant.
Ouais,
Et
effectivement.
puis, moi, je t'ai coupé du coup. Il
Non,
t'a
mais
influencé.
c'est pas grave parce que c'est très important ce que tu viens de dire et ça j'en parle aussi à mes clients. Et d'ailleurs, je crois que ça remonte à Sun Tzu, hein. Tu te rends compte, dans l'art de la guerre, Bon, c'est pas un
Ok.
bouquin que je recommande de lire forcément, parce que c'est un peu en décalage maintenant,
Ouais, en
3 4 000 ans
effet.
après. Mais
Ouais.
il y a deux, trois enseignements dedans, et il dit notamment que trois personnes, je crois, de
Ah
mémoire.
oui, d'accord,
Et
d'accord.
puis, bah, l'armée, c'est 5. Voilà. Bon.
Bah, ok.
Ok. Qu'est-ce que je te disais? Ah oui, je te disais,
Oui,
pendant mes
tu me disais que...
séminaires, je parlais de méthode, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais.
Et donc, la méthode. Alors, quand je parle de méthode, c'est quoi? Parce que les méthodes, il y en a plein. T'es bien placé pour le savoir avec outils du manager. Quand je parle de méthode, je parle de méthode de transmission de l'information. C'est comme j'ai commencé à le dire, une bonne manœuvre, un projet qui réussit, une mission qui réussit, c'est une phase de décision bien menée et une exécution bien menée. Bon, ça suppose que pendant la phase de décision, on a les éléments pour décider, pour réfléchir. Voilà, on a la réalité, on a une bonne vision de la réalité. On n'est pas dans le brouillard de la guerre, comme dirait Clausewitz. Et puis, pour avoir une bonne exécution, il faut des compétences techniques, des moyens, etc., etc. Bon, là-dessus, c'est assez clair. Mais ce qui pêche souvent, c'est le lien entre la phase de décision et la phase d'exécution. Et ce dont on se rend compte, les erreurs que j'ai commises, les erreurs que j'ai vues moi-même et que j'ai vu mes chefs commettre, c'est que bah, bien souvent, ceux qui exécutent ne savent pas exactement ce qu'il y a dans la tête de celui qui a décidé. Et donc, il y a un manque de convergence, finalement. Ce que croient les exécutants sur le terrain n'est pas ce que veut le chef au-dessus. Et donc, c'est dommage, parce que on obtient un système qui est plus uni, finalement. Et on ne respecte pas un principe assez important qui est le principe de concentration des forces quelque part. Les forces sont dispersées à droite à gauche, et puis on se retrouve avec beaucoup moins d'impact. Tu sais, c'est un des principes de la guerre du maréchal Foch. Alors il ne dit pas concentration des forces, il dit économie des forces, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer de concentrer les forces sur un point pour avoir le plus d'impact possible. Bon, ça c'est de la stratégie, mais finalement dans un projet c'est un peu la même chose. On va faire en sorte que toutes nos
Absolument.
forces intellectuelles convergent vers un objectif commun et que chacun fasse pas sa guerre dans son coin. Et donc,
Absolument.
partant de là où je peux apporter quelque chose moi, et c'est là-dessus que je travaille essentiellement, c'est avec les dirigeants et les managers que j'accompagne, c'est attends, comment tu fais pour que ce qu'il y a dans ta tête soit dans la tête de celui que tu commandes? Et ben on va aller sur la méthode que tu emploies pour transmettre ta vision, justement. Et c'est là-dessus que l'armée a quelque chose à apporter.
Super intéressant. Et alors, ce qu'on fera, hein, je le précise avant qu'on suive, on mettra en descriptif du podcast un lien. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Hervé, on mettra le lien. Donc, il suffira de cliquer sur le lien pour pouvoir entrer en contact avec toi soit pour un accompagnement, soit pour organiser un séminaire, etc. Donc, on mettra bien le lien en descriptif du podcast. Ouais, super intéressant et je suis 100% d'accord avec toi. C'est que l'idéal, c'est pas du tout de dupliquer ce que toi tu ferais, parce que parfois tu as des gens qui sont plus spécialisés que toi et qui le feront certainement mieux que toi tu ne le ferais. Par contre, qu'ils le fassent dans la stratégie qui a été décidée. Et qu'ils aient pas. En plus, c'est la voie de l'autonomie parce que du coup, ils n'ont pas besoin de t'interrompre toutes les 5 minutes pour te demander. Bah, je fais comme ça, puisqu'ils savent en fait quelle est la finalité. Et je suis d'accord. C'est le principe d'ailleurs du management par objectif qu'on retrouve
Oui,
aussi chez
la méthode OKR
Drucker.
aussi,
Ouais, tout à fait,
qui est
tout
assez
à fait.
proche.
Bon, super intéressant. Alors, juste pour revenir à ton parcours, tu me disais qu'il y avait des hommes, des gens pour qui que tu avais rencontré et qui avaient impacté fortement ton parcours. Est-ce que tu auras un exemple ou deux justement, puisque tu nous dis en général, bah je me calquais un petit peu sur la manière de faire de mon chef. Donc ça t'a formé, ça t'a façonné. Est-ce qu'il y a un exemple dont tu voudrais parler en particulier?
Ah bah c'est le dernier capitaine que j'ai eu.
Ok.
Ouais. Il s'appelle, pardon, Geoffroy. Aujourd'hui, il est plus capitaine, il doit être colonel, je pense. C'est sans doute le meilleur chef que j'ai eu.
OK.
Et pourtant, il avait des défauts, hein. Il
Ouais.
avait des défauts. On a tous des défauts, on a tous des qualités, mais je considère qu'on peut tous être un bon chef si on applique de la méthode. Et lui, c'était quelqu'un de rigoureux, de très discipliné. Très discipliné. Et il m'a appris un truc. Alors, je me souviens, c'était une journée où, je ne sais pas, je devais pas être dans un bon mood. Je vais vers lui, je râle, comme je sais le faire parfois. Je dis, bon, Geoffroy, lui, je le veux pas sur cette mission, etc. Je sais plus exactement ce que je lui dis, mais en gros, j'étais en train de râler sur un des soldats qui était pas au niveau, etc., etc. Parce que j'avais pas encore atteint le niveau de, tu sais, de maturité dont on a parlé tout à l'heure. Parce que ça prend du temps, hein, j'en suis conscient, ça prend beaucoup de temps, il suffit pas de le dire. De niveau de responsabilité absolue, quoi. C'est-à-dire que bah, dans la compagnie, il y a des soldats qui sont dévoués, il y a des soldats qui sont sportifs, il y a des soldats qui sont malins, mais il y a des soldats qui bon, ont moins de qualité que les autres, ou qui ont moins envie, ou qui sont moins concernés par la défense du drapeau, enfin tu vois ce que je veux dire. Qui sont là plus pour la gamelle, comme on va dire. Je commence à râler sur un de ces soldats et je lui dis non, moi pour cette petite, c'était une petite mission, je sais plus ce que c'était, une mission de représentation. Je dis bah écoute, moi je suis là, j'en veux pas, j'en veux un autre, etc. Il dit mais Hervé, tu choisis pas tes soldats. Et puis il me regarde comme ça. Mais depuis quand tu choisis tes soldats? Tu fais avec qui tu as? Et là, il me l'a dit d'une telle force, avec une telle conviction dans le regard, ça m'a mis une claque. Bon, plus jamais je suis venu me plaindre de mes soldats, de nos soldats. Et il m'a appris ça, c'est bah tu fais avec ce que t'as en fait. Et si ton soldat il est pas au niveau, tu viens pas te plaindre parce qu'en fait c'est ta faute. T'as pas fait ce qu'il fallait. Alors évidemment, le soldat, il a des capacités on a tous un niveau de compétence maximal. Il y a des choses qu'on pourra jamais
Ouais, un
faire.
potentiel
Voilà,
maximum.
c'est évident. Et moi, le premier, j'aime pas trop la phrase quand on veut, on peut, moi. Parce que quand on veut, on peut, mais quand on peut pas, ben on peut pas, quoi. On a des limites intrinsèques. C'est comme ça. D'ailleurs, il faut les accepter. Et l'humilité est une grande qualité du leadership. Et donc, il m'a appris ça, c'est que ben, on fait avec qui on a. Alors, en entreprise, on a la chance de pouvoir recruter, de licencier, et encore, c'est pas facile, mais en compagnie, et on peut pas vraiment le faire, en fait.
Exact.
On choisit pas vraiment ses camarades. Enfin, voilà, on nous impose les gens qu'on a autour de nous. C'est les centres de recrutement qui nous envoient les soldats. Et donc, ben, on fait avec les soldats qu'on a. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que le soldat s'élève à un certain niveau de compétence et qu'ensuite, on puisse lui faire confiance. Et c'est là l'enjeu du leadership. Et ça, c'est ce qu'il m'a appris. Il m'a appris plein d'autres choses sur la discipline. Et ça, je pourrais t'en reparler tout à l'heure. C'est vraiment ce que je retiens de mon passage à l'armée. C'est les quatre formes de discipline. Mais ouais, ça, c'est le message qu'il m'a fait passer et que moi, j'aimerais bien faire passer aussi. Même si le contexte est différent, c'est bah, tu fais avec qui t'as et tu te plains pas. Et tu te plains pas de cette personne parce que si elle est comme ça, soit tu as fait quelque chose, soit t'as pas fait quelque chose qui fait que elle n'est pas au niveau que tu attends. C'est comme si on avait un parent, un père de famille, et ça aussi, bah tiens, j'aurais pu te répondre ça. Qu'est-ce qui a été un tournant dans ma vie? C'est aussi d'avoir des enfants.
Bien sûr.
Ça aide beaucoup pour manager. Enfin bon, pour comprendre la nature humaine. Mais bah, tes enfants, ils sont le résultat de l'éducation que tu as donnée. Et donc, bah, c'est un peu pareil pour finalement le management, prendre la responsabilité sans tomber dans le paternalisme. Du niveau de tes collaborateurs.
Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, l'armée, tu choisis pas, et puis tu choisis pas qui tu recrutes, et tu peux pas fa facilement les éjecter. Et j'avais cette même discussion aussi dans un épisode que j'ai enregistré, je sais plus, avant-hier, je crois, avec une personne qui faisait partie de la fonction publique, et je lui disais la même chose, c'est que oui, effectivement, un des avantages, mais des gros guillemets, du privé, c'est que tu peux licencier les gens, etc. Mais en réalité, c'est le dernier recours, donc c'est toujours un échec
Oui.
pour tout le monde, y compris pour la personne qui licencie l'autre. Et par ailleurs, l'évolution du marché du travail fait que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de recruter, et c'est pas évident parce que le marché il est plutôt en tension sur les talents. Et donc oui, bien souvent, même dans le privé, tu dois faire à 90% avec les managers, avec les collaborateurs, de toute façon que tu as. Donc effectivement, vaut mieux savoir le faire. Alors tu m'as dit un truc quand tu m'as parlé de cette expérience. Tu m'as dit je pourrais te reparler de la discipline et des quatre formes de
Oui.
discipline. Tu m'as dit ça. Il y a quatre formes de discipline que tu as apprises à l'armée.
selon moi en tout cas.
Ouais.
C'est ce que j'ai observé. Alors, je prétends pas avoir la science infuse, mais j'estime que pour faire preuve de responsabilité absolue, pour être un chef responsable, et donc un bon chef, parce que c'est une condition essentielle, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Pour faire preuve de responsabilité, ça commence par être discipliné. Pourquoi? Parce que finalement, le management, c'est beaucoup de discipline quelque part. La discipline, pour moi, c'est faire ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait, que ça nous plaise ou non. Je ne sais plus de qui est cette phrase, j'arrive pas à retrouver l'auteur. Je l'ai vu un jour dans un podcast ou une vidéo YouTube, et j'ai trouvé génial cette phrase. C'est faire ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait, que ça nous plaise ou non. Et finalement, ça demande de... Et c'est ça la discipline. Et il y a quatre formes de discipline, selon moi. Un, discipline intellectuelle. Ça veut dire que tu sais, la première responsabilité du soldat, c'est de rester compétent. Alors, je ne sais plus où c'est écrit. Tu sais, il y a un... Je suis pas un spécialiste des règlements, je l'ai jamais été, mais tu sais, on n'a pas de code du travail, il n'y a pas de code du travail à l'armée. C'est une grande différence d'ailleurs, c'est pour ça que tout n'est pas applicable, hein, attention. Le soldat n'est pas soumis au code du travail, mais il a un code de conduite, quoi. Et parmi ces codes, il y a être compétent et entretenir la compétence. La discipline intellectuelle, pour moi, c'est être compétent et être capable de décider, de prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions, c'est la base du management. Un manager, il prend des décisions, il est payé pour prendre des décisions. Et décider, ça fait appel à une forme de discipline intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'il faut rester au niveau et comprendre les enjeux, de son métier, comprendre le contexte. Il faut passer beaucoup de temps à étudier, comment le cœur de métier est réalisé au sein de l'entreprise, etc. Enfin, ça, tu vois, c'est de la discipline intellectuelle. Ensuite, il y a la discipline physique. Alors, à l'armée, c'est évident. Tu as un chef de section qui fait marcher sa compagnie, sa section sur 30 km pour une marche, voilà, une marche d'entretien. On marche beaucoup à l'armée, surtout dans l'infanterie. C'est une passion. On marche énormément. Imagine le chef de section, au bout de 5 km, il a mal aux pieds, il peut pas continuer. Bah, il est plus chef de rien du tout.
Ah, ça la fout mal.
Ah bah oui. Et ben bah, finalement, en entreprise, quand t'as un chef qui est en burn-out, on entend beaucoup de parler de burn-out, etc. Mais la responsabilité du chef, c'est de pas faire de burn-out. En fait, en réalité, c'est un peu dur ce que je dis et c'est pas très gentil parce que ça peut arriver. On a tous des faiblesses, etc. Mais à un moment donné, faire un burn-out ou même tomber malade par négligence, se mettre dans des conditions qui font que bah, finalement on n'est pas en forme le lundi matin. Ça, c'est pas faire preuve de discipline quelque part. Pourquoi? Parce que le leadership repose énormément sur la présence. Et même en télétravail. Hein. Même en télétravail, il y a des manières d'être présent. Tous les moyens de communication sont à notre disposition pour montrer qu'on est là en permanence.
Je
Bon.
suis d'accord. Et puis tu as le temps de présence, puis tu as l'intensité de la présence, parce que c'est pas en faisant 10 heures par jour au milieu de tes équipes que tu vas avoir une bonne présence, parce que tu vas être crevé, etc., etc. L'intensité, être mentalement et physiquement, enfin physiquement, mentalement présent, c'est extrêmement important. Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est de la responsabilité, je suis d'accord avec toi, d'un manager, que de construire sa résilience plutôt que d'éviter le burn-out. Moi, j'aime bien. J'ai fait venir sur le podcast Marie-Hélène Pelletier, qui a écrit un bouquin qui s'appelle malheureusement pas traduit encore. Elle est francophone, canadienne francophone, où elle, effectivement, elle explique comment bâtir sa résilience avec vraiment un plan stratégique. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant comme approche du burn-out. Plutôt que de dire faut éviter le burn-out, elle dit non, faut construire les conditions pour qu'il n'arrive pas. Et je trouve ça plus parlant pour un manager. Bon, donc je t'ai
Ah, c'est génial.
interrompu.
Ouais. Non, non,
Ouais,
mais
discipline
c'est génial ça.
intellectuelle.
Ouais. Discipline intellectuelle, ok, bon, ça j'en ai parlé, ça c'est facile à
Physique.
comprendre. Discipline physique, ok, donc l'objectif c'est quoi? Bah, c'est d'être là, en forme, d'être au rendez-vous tout simplement. Voilà, parce qu'un chef qui n'est pas là, bah, en vérité, il perd du leadership. Discipline émotionnelle. Alors, la discipline émotionnelle, pour moi, elle est importante parce que faut pas faire de favoritisme dans une équipe. Et il faut essayer de faire fi de ses préférences personnelles lorsqu'on va collaborer avec quelqu'un. Et pour moi, ça, c'est de la discipline émotionnelle quelque part. C'est-à-dire traiter son collaborateur avec respect, même si on n'irait pas passer ses vacances avec lui, par exemple. Et être capable en dernier recours, alors ça c'est quelque chose qui fait pas plaisir à faire, hein, évidemment, personne n'aime ce moment-là, mais être capable de recadrer un collaborateur alors qu'on est allé se boire une bière avec lui, ou un jus d'orange, ou un thé, le samedi. Et ça c'est la discipline émotionnelle quelque part. Il faut faire ce qu'on a à faire au moment où on doit le faire, que ça nous plaise ou non. Et enfin, discipline morale ou éthique, je dirais. Alors, ça c'est difficile d'aider les gens à développer cette discipline-là. Hein. On est d'accord, on l'a ou on l'a pas quelque part. Mais faire ce qui est bon pour l'équipe n'est pas ce qui est bon pour nous quelque part. On a l'habitude de dire que le chef, il sert son équipe. Il n'est pas là pour servir. Il est là pour servir son équipe. Être au service de. On se met au service. Le chef militaire, il est au service de ses soldats. Parce qu'il veut que ses soldats soit opérationnel, donc il est là pour eux. Et la discipline morale, c'est ça, c'est savoir ce qui. Alors, pas d'un point de vue, tu sais, macro, spirituel, etc., mais juste en restant au niveau de l'équipe. Moralement, pour l'équipe, mais qu'est-ce qui est bon pour l'équipe? C'est là-dessus que je dois mettre la priorité. Pas ce qui est bon pour moi uniquement. Voilà, donc je dirais, il y a quatre formes de discipline et c'est ce que j'ai appris à l'armée.
Ouais, une question intéressante sur justement la discipline morale et l'éthique, c'est est-ce que je suis en train de créer de la valeur pour mon équipe ou est-ce que je suis en train de détruire de la valeur pour mon équipe en créant pour moi ou pour un de mes collaborateurs, etc. Je pense que c'est une question voilà qui évite de qui permet quand même de se placer à un niveau opérationnel et parce qu'on n'est pas forcément attiré par des niveaux plus hauts, plus intellectuels ou plus spirituels, je dirais.
Bien sûr.
Mais déjà, tout bêtement, est-ce que là, je suis en train de faire du bien à la valeur de mon équipe ou pas? Ça peut être une question qu'on se pose régulièrement. Et en général, le bon sens nous oriente là, hein. Pas toujours, mais en général, quand même.
Et pour ceux qui seraient sceptiques vis-à-vis de ces quatre formes de discipline, surtout les deux dernières que j'ai données, émotionnelles, morales, etc. Bon, certains qui vont se dire, bon, c'est un peu perché, ça, c'est pas du business, on s'en fiche. La vérité, c'est que vous êtes récompensé pour être discipliné, moralement et émotionnellement.
C'est
Puisque
sûr.
les collaborateurs sont pas bêtes, ils sont pas aveugles. Prenez n'importe quel collaborateur, il le voit, hein, quand il a un chef qui est discipliné moralement et discipliné émotionnellement, il respecte ça. On respecte tous ses traits de caractère. Donc, soyez respectés pour ses traits de caractère.
Oui, puis finalement, ça peut être assez passionnant de développer ces traits de caractère, parce que c'est du développement pour soi-même aussi. Moi, il y avait une phrase aussi que j'avais bien aimée. C'est pas moi qui l'ai entendue, c'est un de mes collaborateurs qu'on avait envoyé en formation sur un cursus de type MBA. Bon, le mec était allé un peu fort, mais il leur avait dit voilà. Et donc c'était la personne qui les formait au management. Et donc les gens étaient dans la place, dans la salle. Et puis il a dit bon, ceux qui ont fait ce métier-là pour être aimés, sortez de la salle.
Ah,
Et
excellent.
il m'a dit, ça m'a marqué. Et tout
Ouais.
d'un coup, je me suis dit, arrête d'essayer d'être aimé et sois respecté parce que tu es juste. C'est un autre truc qu'on peut se dire quand on n'est pas forcément, je disais tout à l'heure, quand on veut être très pragmatique, etc. C'est, est-ce que si je fais ça, on trouvera que j'ai fait quelque chose de juste? Est-ce que mon comportement est juste? Parce que quelquefois, mais je dis même pas quelquefois, c'est, vous serez plus respecté dans le long terme par vos collaborateurs, parce que vous avez fait des choses justes qui leur plaisaient pas et pour lesquelles ils vous en ont voulu, que d'avoir toujours fait ce qu'il fallait pour qu'ils vous aiment. Et pour qu'ils soient contents tout le temps. L'histoire, c'est pas d'être content tout le temps, c'est que
Non.
c'est d'être intègre et c'est d'être cohérent.
Ouais, c'est ça.
Très important. C'est
Très
aussi ça
important.
qui va faire que quand ils seront sur le terrain et que vous serez pas là, ils feront les bonnes choses. C'est le fait qu'ils sentent une cohérence, une intégrité dans ce que vous faites. Ok. Alors, il y a un autre truc qui m'intéresse dans
Ouais.
la petite discussion qu'on a eue auparavant, c'est que tu m'as dit que tu avais fait des erreurs en tant que manager et que ça
Oh
t'avait
oui.
appris des choses. Est-ce que tu aurais des exemples? Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est tout à l'heure, Tu m'as dit, j'ai fait des erreurs. J'ai dit, bah ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Est-ce que tu as des exemples justement ouais, d'erreurs que, alors que tu es spécialiste de management, que tu as faites?
Ouais, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Alors, des graves, des moins graves. Enfin, des graves. J'ai jamais engagé la sécurité de ma section sur une erreur. Heureusement. Mais j'ai fait des erreurs managériales. Je me suis mis des bâtons dans les roues tout seul. Voilà, ça c'est une erreur. Quand un manager fait une erreur, il se met des bâtons dans les roues tout seul, en fait. Et après, c'est un cercle vicieux. Donc j'ai fait quelques erreurs. Et j'en ai fait une. Notamment. Qu'est-ce que je pourrais te raconter? Je vais t'en raconter deux. J'ai fait une erreur le jour où. Voilà, on était en Centrafrique. Et la mission se terminait. C'était une mission tranquille. Voilà, j'étais lieutenant. Et puis on me désigne, moi, lieutenant, avec mon encadrement, mes sergents, etc., pour conduire une mission d'incorporation. C'est-à-dire, okay, on prend 40 jeunes, enfin on nous les donne, 40 jeunes civils, et puis on leur met un treillis, et puis on en fait des soldats en 6 mois. Ça, c'est une incorporation. Tu sais, c'est les classes.
Voilà. Ouais, ok.
C'est une mission passionnante que j'avais déjà faite une fois. Et là, il fallait que je le fasse une deuxième fois. Mais c'est très lourd parce qu'en fait, c'est 6 mois. Et pendant 6 mois, on est un peu éloigné de sa... Alors, à l'époque, j'avais pas d'enfant, mais on est éloigné de sa compagne. Et c'est pas très facile. Et puis surtout, j'avais pas envie de le refaire. Et ça s'est vu que j'avais pas envie de le faire. J'ai râlé auprès du capitaine. Je voulais pas faire ça. Il m'a imposé de le faire parce que la différence entre commandement et management, c'est aussi que le commandement, ouais, on peut dire bon, maintenant tu t'es, tu fais. Il m'a imposé de le faire. Bon, bah, je dis reçu, ok, j'y vais. Mes sergents, mon adjoint et quelques caporaux-chefs, on abandonne le reste de la section qu'on confie à d'autres chefs de section et puis on part faire l'incorporation de 40 nouveaux soldats. Mais j'y suis allé en traînant les pieds, en fait. Donc je pense que tu vois peut-être où ça va terminer tout ça. C'est oui, que j'ai sûr. Commencé à traîner les pieds, ouais, et j'ai clairement manqué de discipline et de hauteur de vue. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, le jeune lieutenant Jouffe, orgueilleux comme il pouvait l'être, voilà, avec tous les défauts de la jeunesse, je me suis mis à la place de mon capitaine en disant « Mais attends, pourquoi il te désigne toi ? C'est peut-être parce qu'il a une bonne raison, non ?» Et c'est déjà parce que peut-être qu'il te fait confiance pour mener à bien cette mission que tu as déjà réussi très bien une première fois. Et puis deux, parce que en fait, voilà, il y a tout un tas de raisons, il te l'a demandé à toi. Donc si t'es pas content, à la limite, va discuter avec lui. Mais c'est ça, faire preuve de hauteur de vue. C'est, comme disait le maréchal Foch, c'est rentrer franchement dans la pensée de son chef. Mmh. Parce que selon lui, commander, déjà, c'est commencer par obéir. Et là, clairement, j'ai manqué à mon devoir d'obéissance dans le sens où je ne suis pas rentré dans la pensée de mon chef, de mon capitaine. Il s'appelait Sébastien, le capitaine. Je ne suis pas rentré dans la pensée de mon chef, j'y suis allé en traînant les pieds. Et immanquablement, ce qui s'est passé, c'est que mes sergents, ils ont traîné les pieds aussi. Et puis mon adjoint aussi, il a traîné les pieds. Et mes caporaux-chefs aussi. Et est-ce que l'incorporation s'est bien passée, à ton avis? Ça a été très long. Ça a été très long. Et pourquoi? Tout simplement parce que je me suis pas mis à la place de mon propre chef. Et ça, c'est une erreur de management, en fait. C'est pas une erreur juste de j'ai pas juste manqué de loyauté, en fait. Mais ce qu'il faut comprendre quand on est manager, c'est que il faut rentrer dans la pensée de son propre chef pour ensuite manager sereinement sa propre équipe.
Ouais.
On voit des fois ça, des managers qui sont pas d'accord avec leur chef et qui s'étonnent ensuite que leurs gars ne fassent pas leur boulot. Mais c'est normal. On n'arrête pas de râler, on n'arrête pas de dire qu'on n'est pas d'accord. À quoi tu t'attends? Donc, déjà, pour bien commander, pour bien manager une équipe, commencez par vous aligner, faire converger vos intérêts, vous aligner avec la vision de votre propre chef. Et si c'est pas clair, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de ne pas avoir envie, il n'y a pas de souci avec ça. Mais votre responsabilité, c'est vous mettre d'accord avec votre chef, comprendre pourquoi il vous a désigné vous, pourquoi il vous a demandé de faire ça, etc. Quand vous avez compris pourquoi, vous le faites, et Et vous le faites sans rechigner quelque part. Et vous vous emparez du pourquoi de votre chef. Et c'est à ce
ça.
moment-là que votre équipe elle vous suit. Mais si vous vous emparez pas du pourquoi de votre propre chef, votre équipe elle va pas vous suivre parce qu'elle a bien vu qu'il y a une faille dans le système. Elle a
Bien
bien vu que
sûr.
vous avez pas envie. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise, mais une erreur grossière, et que j'ai commise dans ma troisième année de lieutenant. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une bêtise, même avec un petit peu d'expérience. Et
Super intéressant. Et
donc ça,
je suis
c'est...
d'accord. En management, quelquefois, je dis, parce que on avait fait une formation entre, tu sais, le visionnaire et le réalisateur. Dans une entreprise, tu peux avoir un visionnaire, un réalisateur, et jamais devant leurs collaborateurs, il faut qu'on sente une divergence ou un problème entre les deux. Et j'appelle ça, c'est l'histoire, papa et maman sont toujours d'accord.
Absolument.
Même s'ils sont pas d'accord, devant les enfants, ils sont toujours d'accord. Ça
Absolument.
Permet, encore une fois, parce que sinon tu disperses, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est si tu sens une faille, et ben, du coup, tu peux pas te focaliser sur les bons objectifs, etc., etc.
Non.
Et du coup, bah, ça peut pas fonctionner. Donc
Voilà.
effectivement, il y a un effort à faire de la part du manager pour s'emparer, j'aime bien le mot, s'emparer du pourquoi de sa direction, en fait, de
Ouais, c'est
comprendre
ça.
et d'intégrer. Et tant que t'as pas intégré, tant que t'as pas compris, il faut retourner vers ta
Ouais.
direction pour clarifier et toi faire ton chemin aussi. C'est
C'est
vachement
ça.
important, je suis d'accord avec toi.
C'est ça. Et je parlais tout à l'heure de, tu sais, de Joko Willink. Il a écrit un bon bouquin qui s'appelle Responsabilité absolue. Et il cite 4 ou 5 lois du combat, je crois. Et il y en a une, c'est croire. Bon, alors ça fait un peu, tu sais, développement personnel, encore des grands aphorismes, etc., qui vont pas nous aider du tout. Mais non, il a raison. C'est que si vous croyez pas à la mission que vous devez mener,
C'est mort.
vos gars vont pas y croire non plus. Alors, vous avez le droit de... Pardon, mon portable qui... vous avez le droit de pas y croire en première intention, j'ai envie de dire. Mais in fine, vous devez y croire. Si vous y croyez pas, vous allez pas y arriver, hein. Vous allez pas y arriver, en fait. Vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Donc, même par égoïsme, vous devez y croire. Parce que votre vie sera plus facile quelque part en tant que manager. On le sait, le management, c'est difficile. C'est un métier très, très difficile, qui pompe beaucoup d'énergie. C'est des doutes en permanence. Il y a un feu à gauche, un feu à droite, etc. Mais commencez par croire à ce que vous faites. Parce que si vous y croyez pas, ça se voit. Et si ça se voit, vous êtes sûr que personne va se dévouer à cette mission. Voilà. Donc
Super
ça,
intéressant.
c'est une histoire que... C'est une erreur que j'ai commise et qui m'a beaucoup appris.
Alors,
Et ouais.
je sais que tu as un rendez-vous après. Il y a vraiment un aspect
Ah
que
oui,
je
c'est
voudrais
vrai.
pas qu'on loupe. C'est, tu m'as parlé de la confiance. Bon, moi, c'est un thème vraiment, vraiment extrêmement important. Et tu m'as dit, et ça m'intéresse parce que venant de quelqu'un, tu vois, on pourrait croire l'armée, bah non, il n'y a pas d'histoire de confiance, c'est une chaîne de commandes, il y a un mec qui décide, l'autre il exécute, machin, etc. Et moi, à chaque fois que j'ai parlé ou que j'ai rencontré des militaires et que j'ai parlé, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en réalité, la partie exécution de l'armée, elle se retrouve souvent toute seule sur le terrain. Il y a plus de commandement, plus de management. Elle doit savoir quoi faire, etc., etc. Et je trouvais et ton axe, et c'est aussi l'axe que j'avais entendu de la part du général Desportes. C'était la même chose. C'était l'histoire de la confiance. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que ça, pour le coup, c'est aussi un pilier extrêmement important en management.
Alors, moi, je pars du principe que la confiance a priori n'existe pas, déjà. Pour commencer, bon, c'est mon postulat théorique de base, on peut être
Il n'y a
d'accord ou
pas de raison qu'elle
pas.
existe, hein, pas de raison objective.
Voilà. Moi, je fais pas confiance à quelqu'un que je connais pas. Hein. Je suis comme ça. Et je m'attends pas à ce qu'il me fasse confiance non plus. Donc quand un nouveau collaborateur arrive dans une entreprise, je lui fais pas confiance pour lui donner des missions de haute volée tout de suite. Donc déjà, la confiance, elle se gagne. Alors, ça commence comment? Quand le collaborateur a fait la preuve de sa compétence, on a confiance pour qu'il exécute les missions qui lui sont confiées. Bon, ça, c'est la base, déjà. Et donc, pour créer la confiance, déjà, il va falloir faire en sorte que la personne soit compétente. OK, ça, c'est le premier message. Et c'est une des missions du manager, faire monter en compétence ses collaborateurs. OK.
Compétence.
Maintenant, considérant que le collaborateur est compétent. Bon, on n'a pas encore, on n'est pas encore forcément à l'aise avec l'idée de lui laisser les clés de la boutique quand on n'est pas là. Et ça se comprend très bien. Mais pourtant, il faut le faire pour gagner en efficacité. Pourquoi ? Parce que lorsque c'est le collaborateur qui est amené à prendre des décisions sur le terrain, sans passer par vous systématiquement, remonter toute la chaîne de commandement, bah, les décisions sont plus efficaces. Parce que, un, elles sont plus rapides, et deux, elles sont plus, enfin, elles sont prises plus rapidement, et deux, elles sont exécutées plus rapidement. Et la vélocité, c'est un facteur clé du business.
Bien sûr.
Donc, jusque-là, tout se tient. Donc, l'objectif, c'est faire en sorte de faire confiance à ses collaborateurs pour qu'ils puissent prendre les meilleures décisions sur le terrain. C'est-à-dire qu'on applique le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est un principe qui est rabâché au chef militaire. C'est faire en sorte que toutes les décisions qu'on peut prendre sur le terrain soient prises sur le terrain.
Ouais.
En fait, on doit s'interdire de décider si quelqu'un d'autre peut le faire à notre place. Quelqu'un d'autre
hyper
en dessous.
Hyper important en management aussi, ça. Hyper ouais. Important. Ouais.
Bien sûr. Et donc, mais pour ça, ça nécessite de la confiance. Parce que moi, si j'ai pas confiance dans le soldat X pour savoir à quel moment il doit utiliser ses armes, ah ben, je vais être derrière lui et je vais lui dire maintenant feu. Mais c'est pas viable. On peut pas être derrière chaque. Ce serait complètement contre-productif. Et c'est pareil en entreprise. Et donc, pour créer les conditions de la confiance, il faut que on s'assure. Et là, c'est un long chemin, et c'est là-dessus que je travaille avec mes clients, surtout par la méthode. C'est faire en sorte que les collaborateurs sur le terrain sachent ce que vous avez envie qu'ils fassent sans que vous ayez à leur dire. C'est le général de Gaulle qui disait du général Leclerc, après la Seconde Guerre mondiale, général Leclerc qui a libéré Paris. À Leclerc, alors j'ai plus la phrase en tête exacte, mais que Leclerc, en gros, il est formidable parce qu'il exécute tous les ordres que je lui donne, y compris ceux que je lui donne pas. Ça, c'est de la subsidiarité. Et donc, l'aboutissement, c'est ça. C'est quand les gens, ils comprennent votre intention implicite. C'est-à-dire quand ils savent ce que vous voulez qu'il soit fait sans que vous ayez à leur dire. Et comment on arrive à ça? Eh bien, ils doivent vous connaître. Ils doivent vous connaître. Ils doivent en savoir fait... comment vous réagissez dans quel cas, dans tel cas. Ils doivent connaître vos objectifs à long terme. Ils doivent connaître votre idée de manœuvre. Ils doivent connaître votre effet majeur, pour prendre des termes militaires que j'apprends à utiliser à mes clients. Ils doivent. Vous devez être quelqu'un de régulier et de jamais. Vous devez jamais être surprenant dans vos attitudes. Ça c'est
voilà.
Ça c'est un truc. C'est... que je
vous devez
souvent.
Être prédictible.
Ouais. On
vos
être prédictible.
Collaborateurs doivent se douter de ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, tellement ils vous connaissent bien. Vous devez donner le mode d'emploi, moi je dis ça, vous devez donner votre mode, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos collaborateurs, c'est donner votre mode d'emploi. Voilà comment je réfléchis, voilà comment je fonctionne. Et donc, vous devez vous connaître vous-même.
Ah déjà,
pouvoir,
oui.
Pour pouvoir donner votre mode d'emploi. Ouais, super intéressant.
Mais si on se connaît pas soi-même, parce que par exemple on est jeune et qu'on a moins de 30 ans, parce que plus on est jeune, moins on se connaît, hein, on va dire. Mais il y a des gens très matures à 20 ans. Évidemment, c'est un peu une blague. Bah, c'est même si on se connaît pas, en fait, faut se rattacher à des principes. Dans le sens où, ok, bon, il y a des fois, je réagis un peu comme si, un peu comme ça. Mais si je m'en rattache à des principes que je les formalise, c'est-à-dire, ok, dans ce cas-là, je fais ça. Ma vertu cardinale, c'est ça. L'objectif du groupe, c'est ça. Être exemplaire chez nous, c'est ça, 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 ça. Si j'ai des principes et que je m'y raccroche, de manière disciplinée, du coup, ben c'est ce qui arrive, je suis prédictible, comme tu le dis. J'ai eu des chefs qui étaient un peu imprévisibles, et c'est pas rassurant du tout, et ça ne crée pas les conditions de la sécurité psychologique. Et donc c'est pas bon. Donc, soyez connus de vos collaborateurs, et soyez transparent avec eux. Ça passe beaucoup par la communication, tout ça, finalement.
Quand on fait des 1-1 toutes les semaines avec nos collaborateurs, hein, je le dis au passage, ils finissent par nous connaître très, très bien. Et je dirais même que, je le dis quelquefois à propos du feedback, tu sais, au début, tu dois faire beaucoup de feedback à tes collaborateurs, parce que justement, vous n'êtes pas encore en phase et qu'ils font des choses, et tu es obligé de leur dire, ben non, là, machin. Et il y a un moment, pour moi, c'est un moment clé, ou quand tu dis à ton collaborateur, tiens, est-ce que je peux te faire un feedback? Et il fait, ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que j'ai fait ça et que j'aurais dû faire ça, etc. En fait, le collaborateur, il fait son propre feedback. Et là, tu te dis, yes, ça y est, on est en phase, on s'est compris. Ok.
Ah, c'est trop bien.
Alors, il nous reste quelques minutes. Qu'est-ce que je regarde un petit peu parce qu'on on a pas mal discuté en off avant. Non, mais c'est bien. Est-ce que peut-être qu'on peut finir l'épisode peut-être par trois points clés.
Ouais.
Qui pour toi, je dirais, résumerait un petit peu le, soit serait des choses directement activables par les gens qui nous écoutent et qui, et qui correspondent à ta manière de voir le management, ou qui pourraient être un petit peu les grands axes que tu vois pour un manager.
Alors.
Ou trois outils très utiles. Ouais. Voilà.
Trois outils. Ouais. Ouais. Trois outils très utiles. Alors, ça pourrait être les outils que je transmets à mes clients, tout simplement. Trois outils très utiles, parce que là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'attitude et de posture.
Ouais.
Et ça, c'est pas direct, c'est activable, mais c'est pas des outils. Le premier outil que je donnerai, que je donne à mes clients, c'est la méthode, l'adaptation de la méthode d'élaboration des ordres qu'on a à l'armée en version civile. Parce qu'évidemment, en entreprise, on ne donne pas des ordres, donc on ne va pas élaborer des ordres. Mais on a une manière d'impliquer les collaborateurs, enfin les soldats, pardon, dans la conception des manœuvres, qui fait qu'à la fin, la manœuvre, si c'est bien fait, ça devient la leur, en fait.
Okay.
Et donc, cet outil-là, il se résume en plusieurs phases. La première phase, on fait un mission brief à ses collaborateurs. Dans ce mission brief, on va expliquer la situation, la mission du groupe et l'idée de manœuvre. C'est-à-dire, ok les gars, pourquoi on est là aujourd'hui? Voilà, je vous fais le topo, le contexte, etc. Parce qu'on commence toujours par le pourquoi. Ça, c'est important. Ça, c'est Simon Sinek, on en pense ce qu'on en veut, mais ça, il le dit très bien. Ensuite, on décrit la mission dans des termes, évidemment, avec des objectifs SMART, etc., aux collaborateurs. Mmh. Mais quand je parle de mission, je parle de mission du groupe.
Mmh.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est, je dis pas, ok, alors, voilà, donc toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Non, d'abord, je dis, ok, notre mission, c'est ça.
Mmh.
C'est, je sais pas, développer tel produit, par exemple. Mon idée de manœuvre, c'est la suivante. Pour construire mon idée de manœuvre, je vais élaborer, peut-être que le général Desportes en a parlé, parce que lui, il en parle très bien, l'effet majeur, c'est-à-dire la condition essentielle de réussite. Si je réussis ça, la mission est une réussite. Si je ne le réussis pas, c'est sûr, la mission est un échec. Donc, c'est-à-dire que lorsque je donne la mission, je donne l'objectif final à mes collaborateurs, je dois commencer par dire, mais c'est quoi la priorité? Et c'est sur quoi qu'on doit focaliser? Ne pensez plus à l'objectif, je viens de vous le donner, n'y pensez plus. Pensez à cette étape cruciale. C'est là-dessus qu'on va concentrer nos forces.
Okay.
Et ensuite, une idée de manœuvre en plusieurs phases. Et à l'issue de ça, je donne des missions individuellement à chacun sans jamais leur dire comment ils doivent faire. Ça, c'est important. Ça, c'est un mission brief. Les gens prennent connaissance de l'intention de leur manager, prennent connaissance du pourquoi, savent ce qu'ils vont faire, savent qui va faire quoi dans le groupe. Et puis, la phase suivante, c'est le back brief. Et le back brief, c'est un moment important qui est souvent, malheureusement, qu'on ne réalise pas instinctivement dans certaines entreprises. Le back brief, c'est OK, on se regroupe à nouveau. Et puis, le manager pose des questions, questions toutes bêtes à ses collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez compris de la mission? Il leur dit pas, vous avez compris? Ça marche pas, ça. Parce que moi, si on me dit j'ai compris, je dis bah oui, j'ai compris, je suis pas bête. Je peux passer pour un idiot quand même. Oui, j'ai compris. Par contre, si on me dit Hervé, tu peux me dire ce que t'as compris de la mission? Là, je peux pas tricher et me cacher derrière mon petit doigt. Ouais. Je suis obligé de montrer ce que j'ai compris.
En fait, tu leur fais reformuler le truc. Ouais. Okay.
Ça, c'est la première chose. Mais surtout, je leur fais formuler leurs besoins et leurs propositions. Un back brief, c'est ça. Et c'est conduit à l'armée, hein. Ça peut paraître étonnant, mais le capitaine, quand il donne ses ordres à ses lieutenants, les lieutenants, lors du back brief, lui disent « Bah, mon capitaine, là, pour la mission que vous m'avez donnée, je vais avoir besoin de ça, ça, ça. » Et je propose un amendement, entre guillemets, à la manœuvre. J'ai vu ça sur le terrain, etc. Le capitaine, il prend tout ça. Et ensuite, il finalise la note de cadrage et il la distribue, il la ventile. Et avant le départ en mission, on exécute ce qu'on appelle un rehearsal. Et c'est l'ultime répétition, tu sais. On fait une caisse à sable par terre, hein, et on représente le terrain sur lequel on va manœuvrer. Et là, eh ben, t'as l'adjoint de la compagnie qui prend la parole, qui dit: Ok, il est 7h00, première section, qu'est-ce que tu fais? Et là, il y a la manœuvre qui se déroule sous nos yeux. Et c'est intéressant de le faire parce que, tu sais, ça rejoint un peu la visualisation.
Oui, bien
Tu
sûr.
sais, comme un pilote de Formule 1, avant de faire ses 60
Exactement.
tours exactement pareil, on le voit faire ses tours comme ça dans sa tête, ou un skieur, ou voilà. Et donc ça, c'est la visualisation. Et ça permet de constater une dernière fois, ok, tout le monde a compris, tout le monde converge vers le même objectif, tout le monde a compris l'intention majeure, l'effet majeur, on peut y aller. Tu vois, bon, je te l'ai fait en résumé en quelques
Non,
secondes,
mais c'est super intéressant
et
d'avoir
c'est hyper
chaque
intéressant.
étape, hein, d'ailleurs, dont tu as parlé, et la finale, en fait, la visualisation est vraiment intéressante. Quand moi, je dis souvent, je dis à la fin d'avoir de manière visuelle, ou enfin d'ailleurs l'idéal c'est visuel, mais comment ça va se dérouler vraiment, ça aide beaucoup, parce que c'est souvent à cette étape-là qu'on se rend compte que bah faut revenir un petit peu en arrière, parce que tout le monde a interprété un petit peu à sa manière, et dès qu'il y a de l'interprétation, il y a une perte de moyens sur le terrain, quoi. C'est-à-dire
C'est ça.
que encore une fois, on est moins focus sur les objectifs. Bon, super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cet outil. Et moi, j'ai pris des
Merci
notes.
Cédric.
J'espère que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent ont pris des notes aussi. Et puis, je rappelle qu'on mettra dans le descriptif du podcast la manière de te joindre, hein, si vous avez des besoins dans ce domaine. N'hésitez pas à contacter Hervé. On n'a pas dit tout ce qu'on avait à se dire, donc ça veut peut-être dire qu'on refera un épisode, un de ces quatre, si jamais ça
Avec
t'intéresse.
plaisir.
J'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et je te remercie beaucoup. J'ai été ravi de faire cet épisode avec toi.
C'est réciproque. Merci Cédric.
Salut.
Salut.